une émission autour du conte proposée par Étienne Chotin et Nini Villegas pour Radio Vassivière.
Au premier jour, une araignée avait surgi derrière le mur. Qu'avais-je vu ? Je ne l'ai pas laissée vivre. Le deuxième, une autre, mais la même. Ma sanction resta identique. Le troisième, elle était deux fois plus grande. C'est alors que je compris. Arachné, tu voulais que nous poursuivions ton œuvre. C'est pourquoi sur Radio Vassivière, nous offrirons des histoires oubliées, posées sur ton métier, pour tisser à nouveau la toile des rêves éthérés. Le prochain conte est intitulé « Seulement par amour ». Je marche sur mon chemin. Mon chemin est une route qui n'a qu'une voie, la mienne. À ma gauche, un mur sans fin sépare mon chemin du chemin de quelqu'un qui se déplace à côté de moi, de l'autre côté du mur. De place en place, dans ce mur, je découvre un trou, une fenêtre, une fente, et je peux regarder le chemin de mon voisin ou de ma voisine. Un jour, tandis que je marche, il me semble voir, de l'autre côté du mur, une silhouette qui se déplace à mon rythme, dans la même direction que moi. Je regarde cette silhouette. C'est une femme. Elle est très belle. Elle aussi me voit. Elle me regarde. De nouveau, je la regarde. Je lui souris, et elle me sourit. Un peu plus tard, elle se remet en chemin, et je presse le pas, car j'attends avec impatience la prochaine occasion de revoir cette femme. À la fenêtre suivante, je m'arrête une minute. Lorsqu'elle arrive, nous nous regardons à travers la fenêtre. Elle semble aussi charmée par moi que je le suis par elle. À l'aide de signes, je lui fais comprendre qu'elle me plaît énormément. Elle me répond par signes. Je ne sais s'ils ont la même signification que les miens, mais je devine qu'elle comprend ce que je veux lui dire. J'ai le sentiment que je pourrais rester un long moment à la regarder et à me laisser regarder, mais je sais que j'ai encore un long chemin devant moi. Je me dis que plus loin, sur le chemin, il y aura sûrement une porte, et peut-être alors pourrais-je rejoindre cette femme. Rien ne donne plus de certitude que le désir. Je me dépêche donc pour trouver la porte que j'imagine. Je me mets à courir, le regard fixé sur le mur. Un peu plus loin, la porte apparaît. Elle est là, de l'autre côté, celle qui est maintenant ma compagne aimée et désirée, attendant, m'attendant. Je lui fais un signe. Elle m'adresse un baiser dans les airs. Elle fait le geste de m'appeler. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je m'attaque à la porte pour aller la retrouver de son côté du mur. La porte est très étroite. J'introduis une main, une épaule. Je rentre un peu le ventre, me tords un peu sur moi-même. Je parviens presque à passer la tête, mais mon oreille droite reste coincée. Je pousse. Pas moyen, ça ne passe pas. Et je ne peux utiliser ma main pour la tordre, car il m'est impossible de glisser un seul doigt. Il n'y a pas suffisamment d'espace, mon oreille est toujours prise. Je prends donc une décision, parce que ma bien-aimée est là et m'attend, parce que c'est la femme dont j'ai toujours rêvé et qu'elle m'appelle. Je sors un couteau de ma poche et, d'un coup sec, je me coupe l'oreille. Voilà, c'est fait, ma tête est passée. Mais après ma tête, je m'aperçois que mon épaule aussi est coincée. La porte n'a pas la forme de mon corps. Je force, mais il n'y a rien à faire. Ma main et mon corps sont de l'autre côté, mais pas mon épaule et mon bras droit. Plus rien n'a d'importance, aussi. Je recule et, sans penser aux conséquences, je prends mon élan et force le passage. Ce faisant, le coup désarticule mon épaule, et mon bras reste suspendu, inerte. Mais à présent, heureusement, dans une position telle que je peux franchir la porte. Déjà, je suis presque, presque de l'autre côté. Juste au moment où je suis sur le point de passer à travers la fente, je me rends compte que mon pied droit est resté bloqué. Malgré tous mes efforts, je ne parviens pas à l'amener du bon côté. Il n'y a pas moyen. La porte est trop étroite, mes deux pieds ne passent pas. Je suis presque à la portée de ma bien-aimée. Je ne peux faire marche arrière. Sans hésiter, je saisis la hache et, serrant les dents, je frappe et détache la jambe. Ensanglanté, sautillant, prenant appui sur la hache et sur mon bras désarticulé, avec une oreille et une jambe en moins, je rejoins ma bien-aimée. Me voilà. Enfin, j'ai réussi. Tu m'as regardé, je t'ai regardé, je suis tombé amoureux. J'ai payé le prix qu'il fallait pour toi. Tout est bon à la guerre comme en amour. Peu importe les sacrifices, il valait la peine si c'était pour te rejoindre. Pour que nous puissions rester ensemble. Ensemble pour toujours. Elle me regarde, mais une moue lui échappe et elle me dit « Comme ça, non. Comme ça, je ne t'aime pas. Tu me plaisais lorsque tu étais entier. » Le comte dans le conte, Georges Becquet. Cela faisait des mois qu'il vivait effrayé par de terribles pensées de mort, qui le tourmentaient surtout la nuit. Il se couchait en craignant de ne pas voir l'aube se lever, et n'arrivait pas à s'endormir avant que le soleil fît son apparition, parfois tout juste une heure avant de devoir se lever pour aller travailler. Lorsqu'il apprit que l'éveillé passerait la nuit dans les environs de son village, il se rendit compte qu'il avait par là une chance inespérée, car il n'était pas fréquent que les voyageurs passent, même à proximité de ce village perdu dans les montagnes de Chaldée. Sa réputation précédait le mystérieux visiteur, et bien que personne ne l'eût vu, on prétendait qu'il avait réponse à toutes les questions. C'est pourquoi ce matin-là, sans que personne chez lui ne le remarquât, il alla lui rendre visite dans la tente qu'il avait dressée au bord de la rivière. Lorsqu'il arriva, le soleil venait de se détacher de l'horizon. Il trouva l'éveillé en train de méditer. Il attendit respectueusement quelques minutes jusqu'à ce que le maître remarquât sa présence. À ce moment, comme s'il l'attendait, il se tourna vers lui et, avec une expression paisible, le regarda dans les yeux en silence. « Maître, aide-moi, » dit l'homme. « De terribles pensées assaillent mes nuits, et je n'ai ni peine ni courage pour me reposer et profiter des choses de la vie. On dit que tu résous tout. Aide-moi à échapper à cette angoisse. » Le maître sourit et lui dit « Je vais te raconter une histoire. » Un homme riche envoya son domestique au marché acheter de la nourriture. Mais à peine arrivé, il croisa la mort, qui le regarda fixement dans les yeux. Le serviteur, pâli de frayeur, est parti en courant, abandonnant ses achats et sa mule. Haletant, il arriva chez son maître. « Maître, maître, je vous en prie, j'ai besoin d'un cheval et d'un peu d'argent pour quitter la ville à l'instant même. Si je pars tout de suite, peut-être arriverai-je à Tamur avant la nuit. Je vous en prie, maître, je vous en prie. » Le maître l'interrogea sur le motif d'une requête si urgente, et le domestique lui raconta précipitamment sa rencontre avec la mort. Le maître de maison réfléchit un instant et, lui tendant une bourse d'argent, lui dit « C'est bien, va-t'en. Prends le cheval noir, c'est le plus rapide que je possède. » « Merci, maître, » dit le domestique. Et, après lui avoir baisé les mains, il courut à l'écurie, sauta sur le cheval noir et partit à bride abattue vers la ville de Tamur. Lorsque le serviteur eut disparu de sa vue, l'homme riche se mit en route vers le marché, à la recherche de la mort. « Pourquoi as-tu effrayé mon serviteur ?» lui demanda-t-il lorsqu'il la vit. « L'effrayer, moi ?» s'étonna la mort. « Oui, » dit l'homme riche. « Il m'a dit qu'il t'a croisé aujourd'hui et que tu l'as regardé de façon menaçante. » « Je ne l'ai pas regardé de façon menaçante, » dit la mort. « Je l'ai regardé avec surprise. Je ne m'attendais pas à le voir ici cet après-midi, puisque je suis censé le prendre cette nuit à Tamur. » « Tu comprends ?» demanda l'éveillé. « Bien sûr que je comprends, maître. Tenter d'échapper aux mauvaises pensées, c'est aller les chercher. Fuir la mort, c'est aller à sa rencontre. C'est ainsi. « Je dois te remercier de tant de choses, maître, » dit l'homme. « J'ai le sentiment que, dès cette nuit, je vais dormir si paisiblement au souvenir de cette histoire que le matin je me lèverai serein. » « Dès cette nuit, » interrompit le vieillard, « il n'y aura plus d'autre matin. » « Je ne comprends pas, » dit l'homme. « Alors tu n'as pas compris le conte. » L'homme, surpris, regarda l'éveillé et vit que l'expression de son visage n'était déjà plus la même. Le conte dans le conte de George Bucquet. La tristesse et la furie de George Bucquet. Dans un royaume enchanté où les hommes n'ont jamais accès, à moins qu'ils ne s'y promènent éternellement sans s'en rendre compte. Dans un royaume magique où les choses non tangibles deviennent concrètes. Il était une fois un lac merveilleux. C'était un lac d'eau cristalline et pure, où nageaient des poissons de toutes les couleurs existantes et où toutes les tonalités du vert se reflétaient en permanence. Dans ce lac magique et transparent, s'approchèrent la tristesse et la furie pour s'y baigner en se tenant en compagnie. Toutes deux ôtèrent leurs vêtements et, nues toutes deux, entrèrent dans le lac. La furie, pressée, comme l'est toujours la furie, impatiente, sans savoir pourquoi, se baigna rapidement et, plus rapidement encore, sortit de l'eau. Mais la furie est aveugle ou, du moins, elle ne distingue pas clairement la réalité. Aussi, nue et pressée, elle enfila, en sortant, le premier vêtement qui lui tomba sous la main. Et voilà que ce vêtement n'était pas le sien, mais celui de la tristesse. Ainsi vêtue de tristesse, la furie s'en alla. Très calme, très sereine, disposée, comme toujours, à rester à l'endroit où elle se trouvait, la tristesse termina son bain et, sans aucune hâte, ou plutôt n'ayant pas conscience du temps qui passait, avec paresse, lentement, elle sortit du lac. Sur la rive, elle découvrit que ses vêtements n'étaient plus là. Comme nous le savons, s'il y a quelque chose que la tristesse déteste, c'est de rester à nu. Aussi se couvrit-elle du seul vêtement qui se trouvait près du lac, celui de la furie.
Les araignées guides. Une émission autour du conte proposée par Étienne Chotin et Nini Villegas pour Radio Vassivière.